Et ce matin, je vais voir en première partie la dernière arme spirituelle qui est l'épée de l'esprit. Pendant toutes ces dernières semaines, pendant la période de cet été passé, nous avons donc vu pas mal d'armes. Alors si nous avons vu celles qui sont avant celle-ci, l'épée de l'esprit, c'est la dernière, et ô combien importante, mais si vous voulez connaître eh bien, tout ce qui concerne ces armes spirituelles, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, je vous invite à vous rendre sur notre site assembledodieugroyer.fr et vous y trouverez tous ces enseignements. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Vous avez trouvé ? Gloire à Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les hommes, la chair et le sang, les hommes, nos contemporains, nos concitoyens, dans l'Église, mon frère, ma sœur, dans l'Église, les anciens, le pasteur. Non. Ça, c'est un mauvais combat. Mais le bon combat de la foi, le combat spirituel, c'est mener le combat contre le diable. Vous n'avez pas peur. Sinon, il faut vous laisser revêtir de la présence de Jésus. Hein. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Hein. Pas question de Dieu, là. Hein. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, hein, les démons, si vous préférez. C'est pourquoi, dit Paul, c'est pourquoi, à cause de cela, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins. Voilà la première arme, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse, deuxième arme, de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds, la troisième, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de, voilà une autre arme, la foi, avec lesquelles vous pourrez vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je vais lire jusqu'au bout. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les croyants. Priez pour moi, dit Paul. Donc en même temps, priez pour moi, dit Laurent. Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Pour lequel, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais c'était le cas de Paul, je suis ambassadeur quand il dit dans les chaînes, hein, il était en prison, à cause de sa foi. Et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia, gloire à Dieu. L'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une arme. C'est une arme. Celle-ci, elle fait mal si je donne un coup sur la tête. Elle est lourde. Mais je ne parle pas de cela. Je parle de ce qu'il y a écrit. Ce qui est écrit, c'est une arme. Le diable a peur de la parole de Dieu. Il n'a pas peur de ce qu'on peut dire, s'inventer, raconter, etc. Mais il a peur de la Bible. Il a peur des saintes écritures. Et c'est la raison pour laquelle il va toujours s'en prendre aux serviteurs de Dieu qui prêchent l'Évangile. Il va s'en prendre aux missionnaires qui prêchent l'Évangile. Il va s'en prendre particulièrement à ceux qui traduisent la parole de Dieu dans différentes langues, dialectes. Au milieu de différentes ethnies dans le monde. D'ailleurs, très souvent, ce sont les traducteurs de la Bible dans ces pays-là, dans l'œuvre missionnaire, qui sont très souvent, eux, en premier, très attaqués, eux et leurs équipiers. Et prions pour Nicole André Aguila, prions pour Eva Sanchez, voilà, et Nicole et André qui sont en République démocratique du Congo et tous les pays limitrophes, Eva Sanchez qui se trouve au Sénégal et qui, eh bien, traduit la parole de Dieu. Il y a bien d'autres, bien sûr, qui sont sur ce terrain. Et mes frères et sœurs, à partir du moment où vous avez dit oui à Jésus, vous êtes devenus ennemis du diable. Tous les hommes sont, mais alors, pas du tout aimés par l'adversaire. Tous les hommes, parce que tous les hommes sont créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Mais alors, il a une haine féroce contre tous ceux qui lui appartiennent, qui appartiennent à Jésus, pardon. Contre tous ceux qui ont fait le choix, et le bon choix, de s'appuyer sur la parole. Et nous avons ici, au travers de l'épée de l'Esprit, une arme offensive. Jusqu'à présent, les armes que nous avons vues, les armes précédentes, eh bien, sont des armes défensives. Et nous avons ici une arme offensive. Elle ne sert pas seulement à résister cette arme, qu'est la parole de Dieu. La parole ne sert pas seulement à tenir ferme contre les attaques et les mensonges de l'adversaire, du diable. Mais la parole de Dieu, qui est une arme offensive, elle sert, puisqu'elle est offensive, elle sert à combattre. Elle sert pas seulement, bon, je dirais peut-être à se défendre un petit peu, mais à combattre. Pour être offensif. Quand vous priez, vous devez citer la parole. C'est pour ça qu'il faut la connaître, il faut la lire. Il ne faut pas seulement l'ouvrir le dimanche matin, comme il y a beaucoup trop de chrétiens qui le font malheureusement, d'une manière générale. Il faut la lire tous les jours. Il faut la méditer tous les jours. Il faut profiter des études bibliques de l'Église pour mieux comprendre avec les ministères dons de Christ la parole. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut que nous soyons bien équipés. Et il nous a donné ses armes pour être bien équipés. Afin de tenir ferme contre, oui, les attaques de l'ennemi, je le dis, je le répète, mais à combattre, à remporter la victoire qui nous est déjà acquise. Mais il faut quand même la saisir, la victoire. Amen. En surmontant, et il y en a des obstacles, en surmontant tous les obstacles. Mes frères et sœurs, tant que vous serez sur cette terre, vous aurez des obstacles. Ne vous mettez pas dans la tête que, eh bien, à un moment donné, tout va aller très bien, ça va. Oui, il y a des jours où ça ira, mais il y a des jours où ça ira pas. Il y a des jours où tout fonctionnera, puis il y a des jours où il y a des choses qui fonctionneront pas. Et quand on appartient au Seigneur, le Seigneur peut le permettre. Pour justement nous apprendre à compter un peu plus sur lui. Pour justement à nous compter un peu plus sur ses promesses et d'y croire avec tout notre cœur parce que il a dit qu'il ne nous laisserait jamais tomber, ne nous abandonnerait pas le Seigneur. Et ça c'est encourageant parce qu'on est dans un monde où les gens sont très individualistes. Vous l'avez remarqué, les réseaux sociaux, j'en parlais vendredi soir et tout ce système donc développé de communication aujourd'hui pousse les hommes à vivre dans l'individualisme et même les enfants se font beaucoup de mal avec cette affaire-là et ne parlons pas des ados. Mais le Seigneur n'est pas individualiste. Il vient, il nous parle, il vient, il agit, il vient, il nous encourage, il vient, il nous guérit, il vient, il nous permet de tenir debout malgré les moments difficiles. Voyez, c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui disent que quand on accepte Jésus comme sauveur, tout va aller bien, c'est parfait, plus de problèmes de santé, plus de problèmes de famille, plus de problèmes relationnels, plus. Mais c'est complètement faux, c'est ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, mais c'est une fausse doctrine. Quand on accepte Jésus, il y a des victoires, parce que nous saisissons la victoire qui nous a acquise à la croix. Et quand on accepte Jésus, nous saisissons cette épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu parce que c'est elle qui va nous permettre d'affronter l'adversaire de nos âmes et le mensonge qui l'accompagne. Prenez l'épée de l'Esprit. Il est bien écrit, prenez. Mes frères et sœurs, le Seigneur ne vous oblige pas, mais vous y prenez, parce que si tu prends pas, si vous ne prenez pas, vous n'allez pas tenir ferme. Vous allez être emporté, vous allez vous écrouler, vous allez vous appuyer sur qui, sur quoi? Sur ce que l'un et l'autre dit? Mais si ce qu'il dit n'est pas biblique, ou si ce qu'il dit ne correspond pas à la réalité de ses actes, il y a un problème. Vaut mieux s'attacher à ce que dit la parole de Dieu, parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce que Dieu dit, il le fait. Donc là, nous avons des certitudes. La parole de Dieu, elle n'est pas limitée. Pourquoi ? Parce que c'est une arme puissante en vertu de Dieu. Elle vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole d'un pasteur, c'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. On n'a pas à la remettre en doute. Elle vient de Dieu. Elle vient de lui. Et j'y reviendrai là-dessus. La parole de Dieu n'est pas limitée parce que c'est une arme puissante en vertu, par les vertus de Dieu. C'est une arme spirituelle efficace et Paul l'appelle l'épée de l'esprit. Et quand il l'appelle l'épée de l'esprit, nous le savons, toutes ces armes, elles font partie donc de l'habillement du légionnaire romain de l'époque qui, quand il est sur le terrain de combat, le légionnaire romain, il a toutes ses armes. Elles sont bien sûr matérielles. L'apôtre Paul les utilise pour bien faire comprendre aux chrétiens du premier siècle, mais à nous aussi, parce que on n'est pas inintelligent et on sait très bien à quoi cela servait. Et qu'il ne pouvait pas y avoir une chose sans qu'il y ait l'autre. Donc il y a la totalité des armes. Il ne part pas seulement avec une ceinture. Il part avec la ceinture, mais sur laquelle il y a l'épée. Il ne va pas partir seulement avec la ceinture et l'épée. Il va partir avec la cuirasse. Bref, il va tout utiliser pour être protégé et pour mener un combat utile et efficace. Le terme grec que l'apôtre Paul va utiliser dans la traduction littérale, quand il est dit l'épée, c'est pas l'épée, vous savez, une épée comme nous l'entendons. Mais le terme grec qu'il utilise désigne une dague. Une dague. Et la dague du légionnaire romain, elle mesurait entre 15 et 45 centimètres de long. Et elle servait dans le corps à corps. Il n'était pas à 10 mètres, c'est une dague, 15 à 45 centimètres, vous imaginez, il fallait être très proche. Donc c'était un corps à corps qui s'engageait. Et le légionnaire romain avait l'avantage sur ses ennemis parce que les légionnaires romains et les romains avaient donc pu mettre en place cette fameuse dague, mais qui était à deux tranchants. Ce que les adversaires en face n'avaient pas. Les Romains étaient en avance, sur beaucoup de choses. Et nous avons encore des vestiges aujourd'hui qui nous montrent l'intelligence de cette période romaine. Après, il y a eu le Moyen-Âge et puis il y a eu une régression. Mais pendant cette période-là, il y avait beaucoup d'intelligence parmi ces gens-là. Et très avancés dans leur temps. Vous savez, quand je joue une parenthèse, vous allez visiter... on en parlait dernièrement avec une sœur et son époux, mais quand vous allez visiter le pont du Gard, excusez du peu, mais pour l'époque, c'est une sacrée technologie. On est d'accord ? Et ça, c'est rien. Donc, ils étaient très en avance sur leur temps. Et je le répète, c'est avec le Moyen-Âge qu'il y a eu une régression. Mais, ceci étant dit, ils avaient donc prouvé ce moyen de faire une dague à double tranchant. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours une supériorité quand ils avaient le corps à corps. En plus, excusez du peu, ça fait un peu gore ce que je vais dire, mais l'épée à double tranchant, elle rentre un peu mieux dans le ventre. Eh oui, n'oublions pas les combats de l'époque. C'est historique. Ils avaient donc l'avantage par rapport à leur ennemi. Et donc l'apôtre Paul veut nous faire comprendre que le combat spirituel, c'est parfois aussi un corps à corps. Et le seul moyen du corps à corps, et je vais y venir avec un exemple que vous connaissez, mais le seul moyen, c'est d'utiliser cette parole. Parce que le diable, c'est pour ça que je suis un petit peu éprouvé là en ce moment, mais parce que je dénonce certaines choses, et c'est une vérité, il faut les dénoncer. Le diable, c'est un menteur. Mais le mensonge du diable, c'est pas le mensonge, vous savez, de l'homme qui va trafiquer un petit peu la vérité à son avantage, etc. Non, le diable, il l'utilise pour mentir, écoutez bien, et ça fait depuis toujours qu'il fait ça, et puis ça fonctionne, donc pourquoi il arrêterait ? Il utilise la parole de Dieu et il la transforme. Mais il la transforme d'une manière tellement subtile que vous finissez par croire que ce qu'il dit est vrai. Et que ce qu'a dit Dieu, il manquait peut-être quelque chose. C'est ça la force du diable. Il va venir avec la parole, mais il la transforme. Alors il y a plein d'exemples dans la Bible qui nous montrent cela. Rien qu'Adam et Ève, quand ils sont trompés par justement le diable, qu'est-ce que fait le diable ? Qu'est-ce qu'il dit ? Dieu a-t-il réellement dit ? Rendez compte, il jette le doute. Et il est en train de leur dire, non, mais vous n'allez pas mourir. Et il a raison, dans un sens, mais il part de l'aspect physique. Vous n'allez pas mourir de suite. Oui, mais la mort, elle va venir après physique à cause de cela. Et on en subit les conséquences, nous aussi, encore aujourd'hui. Mais il ne parle pas, il leur dit pas qu'il est question d'une mort spirituelle, une séparation avec Dieu. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont être mis dehors du jardin d'Éden, séparés de Dieu, et ça, c'est quelque chose de préjudiciable. Mes frères et sœurs, il viendra toujours d'une manière subtile. C'est pour ça que, littéralement, l'apôtre Paul nous dit « Prenez pour épée d'attaque cette arme de conquête, ce que le Saint-Esprit communique de la parole de Dieu. » Le Saint-Esprit nous communique la parole de Dieu. Quand quelqu'un dit, écoutez bien ce que je vais vous dire, écoutez bien, quand quelqu'un me dit, et ça me fatigue, quelqu'un me dit, et je lui propose de faire la démarche que nous invite à faire la parole de Dieu, c'est-à-dire, je vais parler, ça revient très souvent, et c'est normal, du pardon, par exemple. Je lui dis, mais écoute, il faut pardonner. La Bible nous parle du pardon. Et le pardon est suivi d'actes. D'ici peu de temps, je parlerai du pardon, c'est-à-dire pardonner et accepter le pardon des autres. Parce que là, il y a des lacunes. Mais le pardon, la Bible en parle, hein, je veux dire, ce n'est pas les textes qui manquent. Quelqu'un qui me dit, oui, mais pasteur, je vais quand même prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu que je pardonne. Excusez-moi, j'allais dire sur la vie d'un cheval. Comment peut-on dire une chose pareille ? Soit je crois dans la parole de Dieu, soit j'y crois pas. Soit je l'accepte, ou soit je l'accepte pas. Le Seigneur ne va pas me dire « non, ne pardonne pas » parce qu'il se contredirait. Par contre, le diable, lui, il dit « attends, tu vas voir. Non, tu as pardonné, ça sert à rien. » Non, il y a la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est bonne. Elle est agréable, elle est parfaite et elle s'exprime par sa parole. Dieu nous a laissé sa parole. C'est une ligne de conduite spirituelle. Soit j'ai accepté Jésus avec sa parole, soit j'ai accepté Jésus sans sa parole. Alors là, ça fait bizarre. C'est impossible d'accepter Jésus sans sa parole. Et c'est impossible d'accepter la parole sans Jésus. Les deux sont liés. Ils vont ensemble. C'est la parole de Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est pas la parole d'un homme. C'est une épée. Et le diable n'aime pas cela quand on a compris cela. En effet, je n'ai pas besoin de savoir si c'est la volonté de Dieu que je pardonne. C'est la volonté de Dieu, je vous le confirme. Pardonnez, etc., etc. Relisez bien la Bible à ce sujet. Pardonnez. Le Seigneur m'encourage à le faire. C'est un exemple parmi tant d'autres, bien sûr. Nous ne pouvons pas, mes frères et sœurs, puisqu'il est dit de prendre cette épée, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas être à côté du combat spirituel. C'est impossible. Personne qui, ici, qui appartient au Seigneur peut dire, mais je peux rester à côté du combat. C'est impossible. Vous m'entendez? Alors, dans l'église, vous avez des personnes qui vont amener un combat plus fort que d'autres. Ça, tout est en fonction de leur, comment dire, de leur service, je vais dire, déjà premièrement, et puis également de leur maturité spirituelle. Mais, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas dire « je ne suis pas impliqué dans le combat spirituel », parce que si vous dites ça, vous êtes déjà en danger. Parce que le diable, lui, pour lui, le combat existe. Pour lui, il ira jusqu'au bout. Et quand vous lisez les textes concernant le deuxième retour de Jésus en deux phases, la première sur les nuits du ciel, où les morts en Christ vont ressusciter premièrement et puis les vivants seront enlevés en un instant, et la deuxième phase de ce deuxième retour, c'est quand il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Et là, il va détruire l'adversaire, entre guillemets, dans le sens il va le lier, lui, l'Antichrist, et il va les jeter, où ça ? Dans la fosse, pendant 1000 ans. Et au bout de 1000 ans, ils vont être relâchés, le diable. Pendant les 1000 ans, les hommes ne seront plus, pendant cette période où Jésus établira son règne millénaire, ils ne seront plus dans la tentation. Bien que l'homme étant pécheur, celui qui aura 100 ans, il mourra, mais il sera jeune. Ça veut dire que pendant cette période, il y a une période, je dirais, de profonde grâce, en quelque sorte. Mais les hommes seront quand même, malgré tout, même si le diable n'est pas là pour les tenter, parfois certains continueront à pécher. Et ils mourront immédiatement. C'est écrit, hein, relisez bien votre Bible, hein, vous inventez rien, faites des recherches. Et vous allez vous rendre compte que, à ce moment-là, eh bien, il va y avoir ce règne. Il va durer 1000 ans, certes. Mais, en même temps, au bout de 1000 ans, l'adversaire est relâché. Pour un temps, on ne sait pas combien de temps, pour un temps. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ben, croyez qu'il va dire, ben, j'ai perdu une fois, j'arrête. Hein. T'as gagné, Seigneur. Non. Il va recommencer à séduire les nations. Et là, après, on arrive vraiment à la fin des temps. La terre et le ciel existant, tout cela passera. Et ensuite, une nouvelle terre et des nouveaux cieux apparaîtront que Dieu a mis en place déjà pour ceux qui sont à lui. Ça veut dire que le diable ne s'avoue jamais et s'avouera jamais vaincu. Alors si moi, je pars du principe en tant que croyant que je peux être à côté du combat, il a déjà gagné contre moi. Et ça peut être préjudiciable et dangereux spirituellement. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit... Non pas « prenez, si vous voulez, l'épée de l'esprit ». Il ne dit pas « prenez, si vous en avez envie, si vous vous sentez en forme, l'épée de l'esprit ». Mes frères et sœurs, qu'on soit en forme ou pas, moralement, spirituellement, physiquement, parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça pourra arriver et ça arrive encore, il faut que je tienne cette épée de l'esprit et que je l'utilise. Donc je ne peux pas être à côté du combat. Tout combat, quel qu'il soit, tout combat implique une discipline, on est d'accord ? Tout combat implique une préparation adéquate. Celui qui part au combat non préparé, excusez-moi du peu, mais il est sûr de se faire massacrer. Hein ? Moi, par exemple, si demain il y a un conflit armé, et qu'on me demande, j'ai fait mon service militaire, mais j'ai déjà tout oublié, hein, mais si on me demande d'aller dans ce conflit armé sur le terrain, sans... un minimum quand même encore de préparation pour me rappeler le maniement des armes, etc. Mais je vais me faire tuer le premier coup, hein. Ok ? Eh oui, pas vous ? Bon. Mais vous avez à côté de ça des hommes qui sont des militaires de carrière. Mais ils n'ont pas appris qu'une fois les militaires de carrière. Ceux qui sont dans cette carrière militaire et qui vont sur des opérations, des théâtres d'opérations difficiles... Permettez-moi de vous dire, ils sont continuellement entraînés. Ils s'entraînent à tirer. C'est pareil pour un policier, un gendarme. Ils ont des stands de tir, ils s'entraînent. Il faut un entraînement. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est pas, vous savez, allez, va, Inch'Allah. Non, c'est sérieux. Parce que nous avons un adversaire qui fait tout pour essayer à nous détruire. Il fait tout pour essayer à nous amener loin de Dieu, ou à nous éloigner de sa grâce, etc. Donc, il faut être bien préparé. Il faut être dans une préparation adéquate, une discipline. La vie chrétienne, c'est de la discipline spirituelle. L'Église, c'est une Église où il y a la discipline divine. Dans l'Église évangélique, je viens pas, je fais pas n'importe quoi, je vais sauter sur les chaises et machin et ceci. C'est pas parce que c'est marqué Église évangélique que moi-même et mes enfants, je dois faire n'importe quoi dans le lieu de culte. Donc, l'Église est un lieu de discipline, la discipline divine, c'est biblique. Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance. Et il y a un cadre biblique. J'ai remarqué que c'est étonnant, pas tous heureusement, mais il y a des gens comme ça, ils sortent d'une religion, quelle qu'elle soit, les musulmans, les juifs, bien que là, il y a des, c'est carré, hein. Bon, ils sortent du catholicisme, etc. C'est quand même carré aussi. Et puis quand ils arrivent dans une église évangélique, on dirait que c'est, on se relâche, quoi. C'est... voilà, on fait n'importe quoi. Mais non, c'est sérieux. La vie chrétienne, c'est sérieux. C'est sérieux. Un jour, un homme qui venait pour les premières fois dans une église évangélique, je crois qu'il était issu de... je ne me rappelle plus s'il était juif, musulman ou catholique, peu importe. Enfin, il n'était pas protestant, évangélique. Et il est venu, et effectivement, il y avait parfois un petit peu trop de légèreté dans le cadre du culte. Des gens qui parlent, qui regardent je ne sais pas où, qui ont des réactions bizarres pendant les réunions, etc. Il m'a dit, mais c'est bizarre chez vous, il y a un manque de discipline. Et moi, ça m'a percuté le cœur, ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, il m'a expliqué. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait prier pour que... Discipline, ça ne veut pas dire qu'on devient austère, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas nous permettre. Et sur le plan du combat spirituel, c'est pareil. Je ne peux pas vivre cela comme si c'était une petite bagatelle, comme si c'était un petit parcours de santé, comme si c'était le club méditerranéen. Et puis le pasteur, c'est un géo. Enfin bref, je ne vais pas vous expliquer. C'est au club méditerranéen, les animateurs. Mais non, mais il y a là une réalité. Pourtant, combien de fois, peut-être, nous sommes partis, quand je parle partis sur le plan spirituel, au combat, excusez-moi l'expression, la fleur au fusil. Allez, pas bien grave, ce matin, j'arrive comme j'arrive. Bon, le temps de prière, c'est pas bien grave. Puis après tout, ça sert à rien, etc. On est la fleur au fusil? Non? Parce que le diable, lui, il n'a pas la fleur au fusil, hein. Lui, il tire. Et nous l'avons étudié par rapport au bouclier de la foi, avec des flèches enflammées. Et nous avons vu à quoi elles correspondent, le doute, le découragement, etc., etc. Mes frères et sœurs, l'Église locale dans laquelle nous grandissons, que nous formons, parce que l'Église c'est nous, c'est le lieu où le corps de Christ, donc nous tous, tous ceux qui sont sauvés, tous ceux que le Seigneur va rajouter à son Église, parce qu'ils seront sauvés, des pierres vivantes. Mes frères et sœurs, l'Église donc que nous formons, le corps de Christ, c'est un corps qui va combattre ensemble, par la prière, par les exhortations, je l'ai dit, par des disciplines spirituelles voulues du Seigneur, dans la louange, l'adoration, les actions de grâce, je prends ma place, je suis pas là assis puis je m'en vais, c'est terminé, non, je prends ma place, je remporte des victoires, je progresse. Je vais de l'avant, je saisis toutes ces armes, je mène le combat, bon, déjà pour préserver ma vie spirituelle, parce que c'est moi dont il est question, mais en même temps pour préserver aussi ceux qui m'entourent, pour les encourager, les aider, les plus faibles. Mes frères et sœurs, vous imaginez un corps d'armée où il n'y aurait que des soldats totalement affaiblis, blessés, mais écoutez, c'est sûr qu'ils ne reviennent pas, hein. L'Église n'est pas appelée à être faible, parce que celui qui en est le chef, il est fort. L'Église n'est pas appelée à être timide, parce que celui qui dirige l'Église par le Saint-Esprit, c'est Jésus, par le Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu est un esprit de force. d'amour et de sagesse. L'église n'est pas un lieu où il y a quelque chose de froid. Moi, j'étais froid avant, mais là, je suis bouillant. Et la Bible dit que les tièdes, le Seigneur les vomira de sa bouche. Les froids, c'est terrible aussi, mais enfin, il vaut mieux être froid ou bouillant. Parce que quand on est tiède, on ne se rend même pas compte qu'on est froid. On ne se rend même pas compte qu'on est ceci ou cela. On est assis entre deux chaises. Mes frères et sœurs, je vous encourage parce que le combat est rude et il va s'intensifier. Alors, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je dis la vérité parce que je m'attache aux écrits bibliques, aux prophéties, comme d'autres ici qui connaissent parfaitement les textes bibliques. Et je vous encourage à ouvrir votre Bible et à lire ces textes éventuellement. Et mes frères et sœurs, vous allez remarquer que le combat s'intensifie. Alors, c'est des attaques sur le plan de la santé, c'est des attaques sur le plan de la famille, c'est des attaques sur le plan matériel, c'est des attaques sur le plan professionnel, c'est des attaques sur le plan relationnel, c'est des attaques sur le plan social, c'est des attaques dans tous les domaines. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde de ténèbres. Et les chrétiens sont appelés à être de ceux qui vont apporter la lumière, c'est-à-dire refléter la lumière de Christ, être des flambeaux dans un monde de perversité. Il y a la perversité, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et la Bible a raison, c'est la parole de Dieu. Et quand bien même l'adversaire voudrait me faire croire que non, ça va très bien dans le monde. Non, c'est complètement faux. Moi, je suis comme vous, et je vois ce que je vois, j'entends ce que j'entends parmi les médias, etc. Et je me rends compte que les gens perdent la tête. J'en ai parlé un peu vendredi soir, hein, par rapport à la fameuse Esther. Bref, point de suspension. Je ne parle pas d'Esther de la Bible. Hein. Un chrétien qui se prive de l'église locale, mes frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Un chrétien qui se prive de l'église locale se prive de compagnons de combat. Vous avez déjà vu, vous, un corps d'armée où il y a des personnes qui se détachent toutes seules ? Si, ça peut être un sniper, mais il fait partie d'une stratégie globale. Par rapport à un combat précis, un sniper, oui. Très souvent, les snipers sont pas tout seuls, ils sont normalement deux. Mais je vois mal un combattant, quel qu'il soit, dans un corps d'armée, dans un conflit armé, bien dire à son commandant, son capitaine, enfin bref, l'officier, lui dire, écoutez, non, mais moi, je faites ce que vous voulez, vous allez là-bas, moi je vais par là. Mais il a plus de chances, lui, de se faire tuer que les autres qui sont ensemble. On est d'accord ? On est d'accord. C'est logique, hein, après tout ce que je dis. Mais en effet, cette logique, nous la comprenons pour les choses de la vie courante, mais nous avons du mal à l'assimiler pour les choses de la vie spirituelle. Et c'est là qu'il y a un problème. La réalité de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, elle se prend ensemble, pas tout seul. Il est vrai que vous avez votre temps de prière à la maison comme moi. Il est vrai que vous l'avez ensemble, en famille. Alléluia. Mais mes frères et sœurs, l'église locale, ce n'est pas une invention des pasteurs pour qu'ils puissent se faire plaisir en vous voyant, bien que ça me fait plaisir quand je vous vois. Mais, et quand vous me voyez aussi, hein, c'est réciproque, j'espère. Mais, ceci étant dit, le j'espère, je l'ai glissé. Bon, mais, ceci étant dit, l'église locale, elle a été voulue du Seigneur, oui ou non ? À part que je me trompe, j'ai pas la même Bible que vous. Elle a été voulue du Seigneur. La communion fraternelle, c'est une force. Vous savez, dans le monde, il y a un adage qui dit l'union, pas l'oignon. Hein. L'union fait la force. L'union fait la force. On est unis. Quand on est unis, wow. Allez, je vais prendre une autre image. Vous savez, je suis comme ça, hein, vous me connaissez. Hein, j'essaie d'être le plus simple possible. Il y en a beaucoup qui aiment le football, peut-être, ou le rugby. On est dans une région de rugby, Groyer, Toulouse, Castres, etc. Bon, on va parler du rugby. Mais dans une équipe de rugby, comme le football, ouais, il n'y a pas qu'un joueur. Hein. Il y en a 13, il y en a 14, il y en a 15. Ça, c'est pour le rugby. Après le football, ils sont combien sur le terrain ? Je ne sais plus où dire. Non, il y a ceux qui sont les remplaçants. Sur le terrain, combien ils sont ? 11, avec le gardien de but. Vous imaginez que les 10, ils sont 11, hein, mais 10 disent, bon, on sort du terrain, on va se mettre sur le banc, on te laisse jouer, hein, on parle au gardien de but. Il est obligé de garder garder les buts. Il est obligé de jouer défenseur, avant-centre, milieu central, milieu offensif central, ailier droit, ailier gauche. Mais à la fin du match, il est mort. Puis je vous explique pas tous les buts. C'est impossible. Et j'aurais pu laisser le gardien, et puis ou enlever le gardien, et puis demander à un défenseur de jouer tout ça, etc. C'est impossible, on est d'accord ? Mais mes frères et sœurs, nous aussi, c'est impossible de jouer seul, de combattre seul, c'est impossible, de mener le combat seul. Et si quelqu'un se dit, mais moi je suis un franc-tireur dans l'église, c'est un menteur, il s'est laissé tromper, il n'utilise pas la parole de Dieu. La parole de Dieu nous invite à être unis. La parole de Dieu nous invite à être ensemble. La parole de Dieu nous invite à être d'un commun accord, d'une seule et même âme, d'une seule et même pensée. Pourquoi ? Parce que Dieu sait que quand nous sommes cela, quand nous sommes ainsi, quand nous avons choisi cette position-là, spirituelle, voulue de Dieu, parce que Jésus, le Saint-Esprit, le Père sont unis, alors ça fait une force que le diable redoute. Il n'a pas peur de quelqu'un, d'un individu comme ça qui se promène, allez, viens voir là, tiens, moi... Non, ça lui fait pas peur, hein, parce que spirituellement, le diable est plus fort que nous sur le plan de notre humanité. Je vous le rappelle, hein, il est plus fort que vous et moi sur le plan de notre humanité. Mais parce que je suis à Jésus, parce que je demeure dans la communion fraternelle, parce que je me saisis de toutes les armes de Dieu, parce que je les utilise au quotidien, pas de temps en temps, même quand je suis pas trop bien, moi je suis pas très bien aujourd'hui, mais je suis là, et j'utilise la parole, et je vous sers, et je me régale d'être là malgré tout, et puis en même temps le Seigneur me renouvelle, ça se voit. Mes frères et sœurs, je vous assure que la réalité, c'est d'être tous ensemble. Et le mot est dans la Bible. Ensemble, ensemble, ensemble. Bien sûr qu'on a notre vie quotidienne, notre vie familiale, notre vie professionnelle, c'est normal. Mais quand il y a l'Église qui se réunit, c'est une force. Alléluia. En définitive, cette réalité devrait aussi nous inciter à nous concentrer sur l'objet de notre combat. Une église unie, je l'ai dit, c'est une église qui combat ensemble les rangs serrés contre l'adversaire de nos âmes. L'épée de l'esprit ne sert pas seulement à se protéger, je l'ai déjà dit, je le répète, mais elle nous permet d'avancer. Elle nous permet de conquérir. Elle nous permet de faire reculer les puissances des ténèbres. Il y a un cantique qui dit, un vieux cantique, « Dieu a fait de moi un vainqueur. Et je suis fort par celui qui me fortifie. » Dieu a fait de moi un vainqueur. Et je suis fort par celui qui me fortifie. Et l'apôtre Paul le disait, Philippiens 4, 13, il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et avec toutes ces armes spirituelles, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis fortifié. Je peux tenir ferme. J'ai été formé, je continue à être formé par la parole de Dieu pour résister à l'ennemi. Nous avons maintenant à saisir cette même parole comme épée pour le forcer à abandonner la partie contre nous, individuellement, contre l'église de Groyer, d'une manière plus générale, et en France et ailleurs, bien sûr. Vous savez, c'est Jacques qui a dit ceci, Jacques chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et qu'est-ce qui va se passer ? Et il fuira loin de vous. » Jean chapitre 8, verset 32, il est écrit, c'est Jésus qui dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes alors vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. » C'est ça qui nous permet de renverser les forteresses de raisonnement qui peuvent nous séparer de Jésus, de sa paix, de son amour. Et nous trouvons toujours dans sa parole tous les arguments pour contrecarrer les mensonges et les accusations du diable. Le soldat romain, il fallait qu'il sache bien se servir de son épée pour être efficace. Il faut avoir fait des expériences personnelles, intérieures et personnelles, de la puissance de la parole pour pouvoir s'en servir en faveur des autres. Pas seulement ma faveur, en faveur aussi des autres. Je dirais que Connaître les saintes écritures et les principes du royaume de Dieu, saisir la volonté de Dieu et ses promesses, oui, j'insiste, ça va déstabiliser la puissance des ténèbres. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, 1 Jean chapitre 5, verset 2 à 4, dira « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Vous voyez, on revient à la parole de Dieu, les commandements de Dieu. « Car l'amour de Dieu consiste à garder, aimer Dieu, c'est garder les commandements de Dieu. » C'est prendre la parole, prendre cette épée. Et ces commandements, bien sûr, ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde des ténèbres, c'est quoi? C'est notre foi, notre confiance dans la parole. Dans cette épée de l'esprit qui est efficace, là, à double tranchant, alléluia. La foi qui est victorieuse du monde est une foi qui a Christ, en définitive, puisque la parole, c'est Christ, Christ, parole qui a été faite chair, nous dit Jean dans son évangile au chapitre 1er. Et la foi qui est victorieuse du monde est une foi qui a Christ pour objet. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y en a quelques-uns qui y croient, alléluia. Nous croyons que Jésus-Christ est la parole faite chair. Il est la vérité. Nous croyons que Jésus-Christ est la lumière du monde. Nous croyons que Jésus-Christ est bien d'autres choses encore soulignées par la parole et l'évangile. Et mes frères et sœurs, c'est ça qui fait que notre foi triomphe du monde. Triomphe de la mentalité d'opposition à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, aux préceptes de Dieu, aux principes du royaume des cieux. Ça, c'est l'adversaire qui pousse derrière. Mais celui qui est en nous et celui qui est avec nous, Jésus-Christ, lui, le Seigneur, nous pousse à utiliser cette épée pour contrecarrer tout cela. Jésus dira, Jean chapitre 17, verset 17, « Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. » Alléluia. Jésus nous montre l'exemple, vous le connaissez, dans Luc 4, lorsqu'il va utiliser la parole de Dieu comme une arme. Le diable vient et lui dit, « Il est écrit, si tu fais comme ça, tatati, tatata. » Et qu'est-ce que fait Jésus? Il lui dit, « Ah oui, c'est vrai, tu as raison. » C'est ça qu'il lui dit, Jésus? Non, Jésus va mener le combat. Mais avec quoi? Avec la parole. Avec l'épée, lui aussi va l'utiliser, l'épée de l'esprit. Cette épée à double tranchant. Et il va lui dire à chaque fois, « Oui, mais il est aussi écrit. » C'est-à-dire qu'il connaît parfaitement le moyen de contrer l'adversaire qui utilise la parole de Dieu, mais de la mauvaise manière. Et il va ainsi, en l'utilisant de cette manière-là, comme une épée, comme une arme spirituelle, eh bien, il va permettre ainsi à ce que le diable s'éloigne de lui, à cause de la puissance de la parole de Dieu. Et vous connaissez, je l'ai cité plus ou moins, disant que c'est une épée à double tranchant, ben le texte, Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu, elle est quoi? Elle est vivante. Elle est efficace. Elle est plus tranchante même, vous voyez, encore plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, même plus tranchante que la dague ou le glaive des légionnaires de l'époque. Elle est pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge la parole, encore ce matin, c'est elle qui est notre juge. Les sentiments et les pensées de notre cœur. Et ainsi, ce chapitre, ce passage, nous montre que cette épée, eh bien, est la parole de Dieu par excellence. Elle est l'épée de l'Esprit. L'Esprit seul peut lui donner tout son tranchant, toute sa force, toute la pénétration qu'il faut. Alléluia. Et la faire ainsi pénétrer dans les cœurs par la volonté de Dieu, et pas seulement dans le nôtre, mais dans tous les cœurs. D'ailleurs, c'est par elle que nous pouvons mettre à nu les desseins de Satan que nous n'ignorons pas. C'est par elle, afin que nous pouvons réduire à néant les subtilités, les mensonges mis en avant pour nous empêcher de maintenir nos positions dans les lieux célestes ou d'en conquérir de nouvelles. Et les caractéristiques, et je vais terminer dans quelques minutes, les caractéristiques de la parole de Dieu sont nombreuses, de cette épée de l'esprit. La première caractéristique, c'est qu'elle est infaillible. 2 Timothée 3, 16, verset 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Matthieu 4, 4, oui, Jésus dit au diable, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, entre autres, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le mot parole vient de deux mots grecs. Le premier, c'est logos, et le deuxième, c'est rhéma. Logos, c'est la parole, c'est la doctrine, c'est la déclaration de Dieu, déclaration de vérité venant de Dieu. Rhéma, R-H-E-M-A, signifie, au-delà des idées, parole qui est inspirée, parole qui est reçue, parole qui agit, parole qui fait son œuvre. Et au travers d'une telle parole, que ce soit logos, rhéma, elle nous appelle tous à avoir, eh bien, une attitude d'écoute pour bien l'utiliser ensuite contre toute opposition de l'adversaire. Elle nous appelle à pardonner. Elle nous appelle à nous impliquer dans l'œuvre de Dieu. Elle nous appelle à nous laisser relever par le Saint-Esprit. Elle nous appelle à accepter la guérison physique, morale, spirituelle, venant de Dieu. Alléluia en Jésus-Christ. Elle nous appelle à nous laisser aimer par le Seigneur. Elle nous appelle à nous laisser faire par le Seigneur. Elle nous appelle à nous abandonner entre ses mains totalement. On l'a chanté ce matin avec Pascal. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends tout, Seigneur. Vous l'avez chanté? Vous l'avez tout chanté? Vous l'avez tout chanté? Vous avez entendu ce que vous avez dit à Jésus? Prends tout. Et là, il a dit, je t'attends. Je prends. Il ne va pas prendre votre compte en banque, il est beaucoup plus riche que vous. Ça ne l'intéresse pas, je le disais vendredi, il est plus riche que vous. Il n'a pas besoin de votre soutien parce qu'il est plus fort que vous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de lui. Non, non, il dit, prends tout, ça veut dire, je te donne, votre chemise, non, il n'en a pas besoin. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon temps. Je t'apporte ce que j'ai, parce que ce que j'ai en définitive, c'est toi qui me l'as déjà donné. La santé, l'argent, le travail, la maison, des enfants en bonne santé. Et si jamais il y a quelque chose qui se détraque quand on marche avec Dieu dans ce domaine-là, on n'a qu'une seule chose à faire. C'est de nouveau de revenir vers la parole de Dieu, de s'appuyer sur ses promesses et dire « Seigneur, tu as dit que tu ferais, tu as dit que tu répondrais, tu as dit que tu guérirais, il faut prendre le Seigneur au mot, c'est sa parole. » Et ça, c'est l'épée de l'esprit. Quand je prends le Seigneur au mot, il va pas me dire, mais tu exagères quand même, je suis quand même ton chef. Non, le Seigneur, il aime qu'on le prenne au mot. Il aime qu'on le mette au défi. Dans le bon sens, je m'explique. Il aime qu'on rappelle ce qu'il a dit. Il a fait des promesses, elles sont oui et amen en qui? En Laurent Lenoir? Ben non. Elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, elle est infaillible cette parole. Elle fait des choses extraordinaires. Et vous rappelez du témoignage de l'officier romain, Luc chapitre 7. Et il va dire, écoute Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Non, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis une parole. Vas-y, prononce-la, ça va tout changer. Psaume 19, verset 8, la loi, la parole de l'Éternel, elle est parfaite, elle est complète. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à ôter. Et de nos jours, vous le savez, il y en a certains qui prétendent avoir des nouvelles révélations. Moi, je pense que le Seigneur n'a pas tout dit. Et depuis quand il n'a pas tout dit? Quand j'entends des gens parler comme ça, mais ils sont plus forts que Dieu, quoi. Non, la parole de Dieu, elle est complète, tout est écrit, tout est donné, la révélation, elle est complète. Il n'y a rien à ajouter, rien à rejeter en tranché. D'ailleurs, il y a trois textes dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, le livre des Proverbes et dans le livre de l'Apocalypse, qui montrent que si on rajoute quoi que ce soit à la parole de Dieu, on est un menteur, et même, il peut y avoir d'autres actes qui mettent donc notre cœur et notre vie spirituelle en difficulté. Je ne dois rien rajouter, rien ôter. Elle est complète. Et puis, je rajouterai, elle est suffisante aussi, elle instruit. Et nous sommes invités à la mettre en pratique, Jacques chapitre 1er. Elle est déterminante, et je conclurai là-dessus. Elle est déterminante. Je dirais que la réaction d'une personne à la parole de Dieu révèle sa relation avec Dieu. Comment je réagis quand j'entends la parole de Dieu prêcher ? Jean 8, 47, celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, dit le Seigneur, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous vous rendez compte ? C'est clair, ça, c'est précis. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Pourtant, ce qui est prêché vient de Dieu. Alors, bien sûr, ils vont peut-être écouter autre chose qui ne vient pas de Dieu. C'est ça qui est grave. Parce qu'ils n'ont pas ou ils ne veulent plus saisir la parole. L'épée de l'esprit. Le diable va tout faire. Mes frères et sœurs, puisqu'il connaît l'efficacité de la parole de Dieu, il va tout faire pour essayer à nous en éloigner. Nous, nous allons tout faire pour rester attachés, pour la laisser prendre de la place dans notre vie. L'épée de l'esprit, eh bien, peut avoir donc une puissance, et elle a une puissance, cette épée extraordinaire, alléluia, pour présenter l'évangile à nos cœurs, mais aussi aux perdus de Groyer et du Tarn. Mes frères et sœurs, je verrai une deuxième partie dimanche prochain, et j'irai dans cette deuxième partie pour l'épée de l'esprit, sur la parabole du semeur, la parabole des terrains, puisqu'il est question de la parole de Dieu, comment elle est reçue. Matthieu 13, relisez Matthieu 13. D'accord ? On va rendre grâce au Seigneur. Nous voulons, oui Seigneur, encore en ce dimanche, comme chaque jour, te rendre grâce, t'exprimer toute notre reconnaissance, parce que tu nous as laissé ta parole, et ta parole est infaillible, elle est efficace, elle est suffisante, elle est esprit et vie, elle est, Seigneur, puissante, elle est parfaite, elle restaure, elle touche, elle sauve, elle éclaire le cœur de l'homme. Et je crois que ce matin encore, tu nous as fait réaliser, dans cette première partie, sur cette arme qu'est l'épée de l'esprit, qu'est la parole, ta parole, Seigneur, ô combien c'est important de la prendre, de la voir, de l'utiliser dans notre vie spirituelle, notre marche en nouveauté de vie, dans nos prières, dans notre témoignage, de l'utiliser, de la glisser, de glisser l'évangile auprès des perdus pour que la parole fasse son œuvre. Nous, nous semons, nous arrosons. Mais l'Écriture nous dit, mon Dieu, que c'est toi qui fais croître. Et nous prions pour qu'elle croisse encore un peu plus dans les cœurs. Elle croisse un peu plus dans le cadre de notre génération, parmi les plus jeunes et plus âgés. Père, Père éternel, s'il te plaît, que l'église de Groyer vibre par rapport à cette vérité de la parole, communiquée par le Saint-Esprit, communiquée par les anciens, communiquée par les ministères dons de Christ. Je prie, Père, que ceux qui peut-être ne l'ont pas saisi ou ne l'ont plus saisi depuis un certain temps, qu'ils soient ici ou qu'ils soient à l'extérieur de l'église, je prie, Père, pour que tu les interpelles dans leur chambre, que tu les interpelles dans leur conscience, pour qu'ils reprennent l'épée de l'Esprit. Réellement, sans rien rajouter, sans rien ôter, pour qu'ils ne soient pas trouvés devant toi comme des menteurs. Seigneur, pour qu'ils soient forts devant l'adversaire, forts devant ses attaques, forts devant ses mensonges, forts devant toutes ces subtilités qui veulent, eh bien, essayer à nous éloigner de toi et à nous faire chuter. Seigneur, nous ne voulons pas que la chair reprenne le dessus, mais nous voulons que le Saint-Esprit prenne le dessus dans notre vie, car c'est lui qui nous rappellera tout ce que tu nous as dit. Et il le fait. Merci Seigneur, et il l'a fait encore ce matin, et il va le faire encore tout à l'heure, et il va le faire encore toute cette semaine. Je te le demande au nom de Jésus. Merci pour cette arme. Merci de nous rappeler qu'il faut la saisir, l'avoir, et ne pas la lâcher. Amen. Amen.